tous, il est 14h sur Art District Radio et c'est l'émission Art Interview, une émission qui, comme chaque semaine, rencontre artistes et acteurs du monde culturel. Et l'on va parler un peu plus art contemporain aujourd'hui, puisque j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un spécialiste du marché de l'art contemporain, Frédéric Alcaïm, bonjour.
Bonjour.
Ravi donc de vous accueillir ici dans le studio d'Art District. Vous êtes effectivement assez expert en art contemporain. En tout cas, vous êtes dans le milieu depuis plusieurs années.
On peut le dire, oui.
Voilà.
Plusieurs décennies même, je dirais.
Plusieurs décennies. Vous avez notamment officié, je crois, à Drouot Formation, par exemple. Voilà, pour toujours parler d'art contemporain. Je dis parler d'art contemporain parce que c'est un terme que vous avez repris récemment dans votre livre qui a été publié...
À l'automne dernier.
À l'automne dernier, voilà. Donc, il y a tout juste un an, finalement.
C'est ça.
Savez-vous parler l'art contemporain, justement? Donc, c'est un peu le grand sujet... En même temps un peu tabou aussi parce que effectivement les expos d'art contemporain sont encore, même si l'art contemporain s'ouvre de plus en plus au grand public, je pense qu'on peut le dire, mais effectivement voilà, il y a toujours ce côté un petit peu occulte de l'art contemporain pour un grand public qui n'est pas forcément initié, on va dire. Et vous avez justement lancé une plateforme il y a un an également qui s'appelle Art Now, donc une plateforme en ligne digitale où l'on peut retrouver des cours que vous donnez sur l'art contemporain et l'art moderne. Comment ça se présente? C'est-à-dire que ce sont des cours à la fois que vous proposez en fait à un public divers. On peut être à la fois amateur, collectionneur, curieux. Enfin, il y a un peu de tout. Et vous emmenez comme ça des groupes dans des lieux d'art?
Oui, absolument. Alors, l'idée de Art Now, c'est un petit peu mon credo depuis toujours, en fait. C'est qu'il y a un public d'amateurs et de collectionneurs qui sont un peu sur leur quant à soi. Il y a une espèce d'endogamie un petit peu du milieu qui est un fait dans l'art contemporain depuis toujours. Hein. Et on sait d'ailleurs que l'art a toujours une dimension élitiste qui regroupait, on va dire, une catégorie particulièrement favorisée culturellement, voire économiquement, de la population vers la création contemporaine. On sait que à l'époque des Médicis, c'était déjà le cas. Ça, c'est peut-être... Alors, paradoxalement, d'un côté, ouvert relativement fortement ces dernières années, mais en même temps, des personnes qui possèdent, entre guillemets, justement, le langage, les codes de l'art contemporain, et qui en profitent pour se reconnaître les uns les autres, faire partie d'une élite culturelle, on voit bien que ça fonctionne encore extrêmement fortement. Et c'est vrai que j'ai le sentiment depuis toujours qu'il y a un public curieux, un public gourmand même de l'art, et qui se retrouve un peu coincé par rapport à la fois aux nouvelles formes d'art contemporain depuis Marcel Duchamp et tout ce qui a pu en découler, l'art minimal, l'art conceptuel, etc. Mais également par rapport au milieu lui-même, au contexte dans lequel l'art contemporain est présenté. Donc c'est vrai que cette plateforme Artna est un petit peu le résultat de toutes ces années d'expérience que j'ai pu acquérir dans l'idée de transmettre, de rendre accessible à un public relativement plus large, en tout cas, que le public des centres d'art ou que le public des collectionneurs et des foires d'art contemporain, l'art d'aujourd'hui. Voilà. Donc il y a en effet une série de propositions qui vont du cours d'initiation pur et dur. Enfin, pur et dur, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on va dire...
Assez classique, on va dire, voilà, bah, sur
classique, c'est
l'histoire de l'art, tout simplement.
L'histoire de l'art, voilà, et de l'art moderne et contemporain, puisque ça va ensemble. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là, en clair
hein, bien sûr, oui. Un petit peu d'histoire, quand même, avant de tout de suite parler du 21e siècle.
Absolument, voilà. Non, c'est très important parce que on a l'impression que quand on se retrouve avec un tas de cailloux dans un centre d'art, c'est arrivé tout d'un coup et que en effet on se moque de nous, que c'est du n'importe quoi. Et on se rend pas compte en fait que, bon, je pense à, par exemple, au pavillon qui avait été mis en place par Lara Almarseghi, si je ne m'abuse, à la Biennale de Venise il y a 5 ans, ou il y a 6 ans plutôt. Mm-hmm. Et c'était en effet plusieurs de tas de cailloux, précisément, ou de briques, ou de verres brisés, etc. Et c'était un petit peu l'archétype du, entre guillemets, de l'exposition inaccessible au public, ouais. De laquelle un certain nombre de personnes sortaient en rogne, sans avoir rien compris. Et puis, il y avait un livret, en fait, qui accompagnait cette exposition, qui expliquait à quel point ce travail était sensible en réalité et engagé, puisque on parlait d'une île qui avait été abandonnée à côté de Venise. Donc c'est la Biennale de Venise, c'est entre guillemets le Hollywood de l'art contemporain, là où tous les curateurs, les professionnels, les collectionneurs, les gens branchés se précipitent depuis toujours. On a en effet un public quand même qui n'est pas au courant et qui part un petit peu en rogne. Et en fait, on s'aperçoit que derrière ce décor de Hollywood, on a une île qui est complètement abandonnée dans la lagune et depuis un siècle, et dans lesquelles ont été déversés en fait tous les déchets de l'envers du décor de cet Hollywood de l'art contemporain. Et c'est ça dont elle parle, Lara Almarseghi. Et une fois qu'on a lu le livret, on revient à l'exposition. Et en effet, on s'aperçoit qu'il y a du sens. Et à partir du moment où il y a du sens, il y a quand même une certaine beauté qui en émerge d'une certaine manière. Évidemment, ce n'est pas la beauté, entre guillemets, classique ni impressionniste, mais c'est une autre sorte de beauté et surtout d'intérêt, d'attachement à l'œuvre et de compréhension. Bref, les choses n'arrivent pas tout d'un coup. C'est-à-dire que Lara Almarseghi n'a pas présenté cette œuvre il y a 6 ans, sans qu'il y ait eu un certain nombre de précédents dans l'histoire de l'art, qui sont généralement assez peu connus, on va dire, d'un public qui n'a pas eu la chance de faire des études d'histoire de l'art, ou qui n'est pas né dans ce milieu-là, ou qui n'est pas collectionneur depuis 15-20 ans. Mmh. Donc déjà, ça, c'est la base. À partir du moment où on a dépassé un petit peu ces préventions qu'on peut avoir sur une forme rude ou difficile à comprendre ou qui nécessite de notre part un certain nombre d'actions, de réflexions, de lectures, etc., on peut passer entre guillemets à l'étape numéro 2, à savoir se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce milieu de l'art contemporain,
oui.
Pourquoi ces records,
pourquoi les records du marché aussi, ça
les records
fait beaucoup
du marché,
parler,
voilà, qui font parler et qui même occultent bien souvent la réalité de la création contemporaine qui ne se mesure pas du tout en millions mais en milliers d'euros en réalité.
Mais sur la majorité des artistes, oui.
Très grande majorité des artistes. Je crois qu'on est à peu près à 7000 euros pour une œuvre moyenne et on peut trouver encore des pièces à moins de 1000 euros, ça existe. Il y a des foires d'ailleurs comme Drawing Art Now par exemple, ou récemment la foire galeriste qui propose des pièces à ces prix-là. Et puis le côté aussi, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, le quant à soi social, qui peut là aussi rejeter un petit peu, avoir un côté rejetant, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas forcément toujours à l'aise et de ne pas être capable de justement discourir sur l'art contemporain, avoir un minimum de références. C'est vrai que...
Ça peut faire peur un petit peu, oui.
Ça fait peur, on a le sentiment d'être rapidement jugé. Et de fait, on l'est un petit peu. C'est-à-dire qu'on a beau dire, il y a beau y avoir dans ce métier énormément de professionnels qui ont à cœur de divulguer la passion de leur métier. Malgré tout, il y a de fait des codes qui sont formels pour certains. On sait que ça peut être maladroit de dire le message d'une œuvre ou de ne pas prononcer le mot pièce à la place du mot œuvre au moins une fois toutes les deux.
Même ça, je ne savais pas.
On sait que quelqu'un qui n'a aucune connaissance de Bruce Naumann ou de l'art minimal, par exemple, va être immédiatement classifié comme étant d'un certain niveau, etc. Il y a aussi, bien sûr, des codes plus informels, qui sont des codes de langage vestimentaire, par exemple. Ça fait 2 ans, là, que...
Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis 2 ans ?
Les baskets. la basket comme port obligatoire pour, justement, être dans le mouvement actuel. Alors qu'il y a 4 ans, vous seriez venu avec des baskets dans une foire d'art contemporain, vous passiez pour une espèce de beauf abominable. Et maintenant, il y a évidemment des vêtements qui sont coupés par des grands couturiers, qui sont des survêtements, pas autre chose.
Oui, c'est assez
drôle.
Il faut quand même la griffe.
Il faut la griffe, voilà. Donc tout ça, c'est un ensemble d'attitudes qui s'entremêlent, bien sûr, avec les attitudes sociales classiques, hein, qui sont celles de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie européenne et américaine depuis longtemps. Tout ça s'entremêle pour faire que vous vous sentez plus ou moins à l'aise, en clair, dans ce milieu-là.
Bon, enfin, je rassure les auditeurs, on peut quand même aller voir une expo d'art contemporain sans les baskets et la griffe.
heureusement. Alors, ce que je vous dis là, c'est plutôt quand même appliqué aux foires, en fait. Hein,
c'est-à-dire... Alors, vous faites beaucoup les foires. C'était justement une de mes questions avec vos groupes donc d'amateurs qui veulent en savoir plus. Vous mettez au cœur la médiation, donc, comme vous venez de l'expliquer. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai suivi en fait une de vos visites à la FIAC, là, très récemment. Et c'est vrai qu'on a... Vous emmenez des groupes, c'est assez intéressant parce que ce sont des gens qui sont à la fois très curieux de l'art, qui connaissent vraiment pas grand-chose, en fait, à la base, en art contemporain, en tout cas, et qui sont avec des grands yeux d'enfant, un peu devant les œuvres, mais très en attente, vraiment, l'envie, vraiment, d'en savoir plus, de comprendre. J'ai trouvé ça assez attachant parce qu'au final, finalement, ils n'ont pas les baskets, justement. Ils sont tout à fait normaux, on va dire. Et ce n'est pas du tout péjoratif. Hein. Effectivement, ils étaient complètement enthousiastes de vous suivre parce que vous avez aussi ce discours pas snob, quoi, en fait, où on explique l'art tout simplement. Et c'est vrai que, heureusement, d'ailleurs, je tiens à le préciser, quand on parle à la plupart des artistes, eh bien, ils sont aussi tout à fait sympathiques et ils ne sont pas... aussi snob que parfois les personnes satellites qui gravitent autour de ce milieu. Donc ça aussi, il faut le dire qu'il faut aller vers les artistes et puis parler aux artistes aussi. Ouais, hein.
Alors, c'est vrai que, j'ai envie de dire, dans la progression de l'approche qu'on peut avoir de l'art contemporain, je pense que le résultat le meilleur qu'on puisse avoir, c'est en effet de se laisser embarquer dans l'univers d'un artiste et de discuter longuement avec lui et de comprendre au fond que lui n'a pour objectif que d'essayer de diffuser une pensée certes originale, singulière, parallèle, une espèce d'univers un petit peu à part, mais qui est le sien et dans lequel on se laisse volontiers embarquer. Et c'est là qu'on comprend qu'en effet, c'est pas du tout l'objectif des artistes que de rester incompréhensible, occulte, etc. Auprès du grand public.
Mais le problème des foires, c'est qu'on les rencontre pas trop.
Oui, on les rencontre pas en fait dans les foires.
On rencontre plutôt les galeristes, bon, qui pour certains sont intéressants aussi.
Absolument,
hein.
Il y a aussi beaucoup de galeristes, évidemment, qui, dès qu'ils sont amenés pour la meilleure partie de leur travail, c'est-à-dire le véritable intérêt, la vraie passion qu'ils ont de soutenir des artistes, les mettre en avant, etc., se révèlent au contraire d'excellents pédagogues, d'excellents médiateurs et des gens tout à fait passionnés, désireux d'ouvrir leur galerie au public. Mais
le choix des foires, du coup, est-ce que vous pensez que c'est parce vous-même, vous choisissez plutôt les foires, j'ai l'impression, pour emmener vos groupes, enfin, ou alors je me trompe peut-être, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a une variété, voilà, de pièces qu'on peut voir en même temps? C'est une question pratique, j'allais dire, plus qu'une question de découverte artistique.
Moi, si je devais vraiment faire ce dont j'ai envie, j'irais plutôt, je fais d'ailleurs régulièrement des visites de la Biennale de Venise, par exemple, d'autres biennales. J'irais plutôt voir des expositions, voir les expositions parfois aussi des artistes dans les galeries même, puisque évidemment la foire, c'est presque le pire endroit pour découvrir de l'art.
C'est ce que j'allais dire. Cependant, ma question en
absolument.
Filigrane.
Non, on est d'accord, hein, c'est pas pédagogiquement et au niveau de la progression.
À part qu'on peut voir un certain nombre de choses différentes d'un seul coup, bon, ce qui est intéressant aussi.
On se perd, on se noie. Énormément d'amateurs qui vont dans des foires et qui ressortent complètement découragés, épuisés.
Oui, puis les accrochages ne sont pas non plus
Il y a parfois des accrochages intéressants, mais la plupart du temps, c'est des accrochages dits commerciaux.
Exactement.
Et finalement, les pièces qui sont présentes, c'est des pièces qu'on peut accrocher chez soi et ce ne sont pas des pièces forcément qui sont les plus importantes, les plus représentatives des artistes. D'ailleurs, quand on est sur une foire, combien de fois on est obligé d'évoquer au fond que cette pièce-là, cette petite sculpture ou ce petit tableau provient en réalité d'une performance, d'une installation, d'un processus de l'artiste qui est infiniment plus passionnant que la pièce elle-même.
Ouais.
Donc ça, c'est Les foires, je les fais pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que c'est là que les gens vont. C'est the place to be, c'est l'endroit qui est devenu socialement incontournable. Et c'est cette histoire de name dropping qui est hallucinante, qui joue autant pour les artistes que pour les stars d'Hollywood, que pour les foires d'art contemporain. C'est-à-dire qu'il faut être allé à la FIAC, il faut être allé à Frise, il faut avoir vu Art Basel, etc. Et comme les gens y vont de toute façon, qu'ils ont l'impression que c'est l'endroit en effet qu'il faut arriver à décrypter, comprendre, etc. Et ben moi j'essaie de leur donner une méthodologie qui leur permet certes de ne pas voir peut-être toute la foire. On peut passer jusqu'à 10-11 heures parfois dans une foire, on prend le temps, mais d'essayer d'en tirer un certain nombre d'enseignements et justement d'arriver à se débrouiller pour se poser les bonnes questions par eux-mêmes, en fait, vis-à-vis de pièces qui sont pourtant éparses, compliquées, etc.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de la FIAC cette année, qui vient de fermer ses portes?
Bon, alors, comme d'habitude, c'est une foire qui, par rapport à d'autres, est un peu plus historique, qui approfondit un petit peu plus certains mouvements artistiques. Vous avez de temps en temps des expositions monographiques. Là, il y a par exemple une assez belle exposition de Jean Dubuffet avec vraiment plus ou moins toute sa production et des très belles pièces historiques, etc. Après, c'est vrai que ce que je regrette, évidemment, c'est qu'on retrouve un petit peu toujours les mêmes artistes. Mais ça, c'est moi.
Oui, non, mais c'est vrai. Moi, je suis assez d'accord avec vous.
Oui, mais c'est nous, j'ai envie de dire, à titre
personnel.
Oui, parce
que nous, comme on y va régulièrement, on est capable de voir ça.
Voilà, donc à force, on retrouve un peu toujours les mêmes artistes. On a l'impression, de temps en temps, on est un peu surpris par une pièce de tel ou tel artiste, mais finalement, c'est relativement rare.
Mais il y a quand même une partie, effectivement, il y a la partie galerie traditionnelle qui expose régulièrement à la FIAC, grosse galerie plutôt. Et puis, il y a une partie donc, au Grand Palais, là, hein, puisque c'était au Grand Palais, au premier étage, en fait, on monte quelques marches. Et là, on a tout un couloir de galeries émergentes qui sont censées exposer des artistes nouveaux, pas connus.
De fait, il y a beaucoup de choses qu'on en découvre.
Voilà, alors est-ce que ça vous a plu par rapport à ce qu'on disait avant sur les galeries où on voit toujours
Ça m'a énormément intéressé, bien que je constate qu'il y a toujours un biais néo-académique quand même, y compris dans l'art émergent. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de formes qui sont absolument celles d'aujourd'hui.
Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tendances, par exemple
Oui, alors, par exemple, déjà, on retrouve évidemment une espèce de déco de la dernière Biennale de Venise. Donc, on sait qu'on est sur les questions de genre, les questions de l'écologie, par exemple.
Ça, c'est très critiqué aujourd'hui aussi par un certain pan de critiques, effectivement, qui trouvent que l'art contemporain se cantonne en fait à ces thématiques-là, met en avant uniquement des artistes qui effectivement surfent donc soit sur l'écologie, les migrants, la question de l'inclusion, du genre et aussi de la question de la réappropriation culturelle aussi qui est très forte en ce moment.
Les modes d'exposition
aussi. Ce qui
aussi,
peut signifier malheureusement qu'il y a une sorte de discrimination vis-à-vis d'une partie d'artistes qui ne seraient pas sur ces thématiques-là, mais qui seraient cependant particulièrement talentueux quand même.
Absolument, absolument.
Donc ça, c'est un problème quand même.
C'est un problème réel. Moi, je représente 5 artistes actuellement. Il y en a une qui travaille sur l'Anthropocène. Et c'est évident que c'est celle qui a le plus d'écho parmi les professionnels
que je contacte.
Je le remarque très concrètement, c'est évident.
Néanmoins, c'est intéressant parce que
ça va s'épuiser. Ça va s'épuiser.
C'est-à-dire oui, alors que dans deux ans, ce sera autre chose. Voilà. Mais ce sera toujours le même problème, puisqu'on va passer à une autre thématique à la mode.
Absolument, c'est ce néo-académisme-là qui m'agace un petit peu. C'est-à-dire que tout va beaucoup plus vite, en effet, qu'à l'époque du salon du Louvre, où on avait en effet un art officiel qui bougeait peut-être tous les 10-15 ans, qui évoluait petit à petit. Qui a fait rentrer un petit peu le romantisme, qui n'a pas accepté l'impressionnisme, etc. Là, c'est peut-être tous les 2-3 ans. Ça va beaucoup plus vite. C'est un peu comme... C'est notre monde. On change de téléphone tous les 2-3 ans. On change aussi de thématique à la FIAC, à la Biennale de Venise, à la Biennale de Lyon. À la Biennale de Lyon, je ne l'ai pas encore vue, mais enfin, tout porte à comprendre, a priori, que c'est aussi la thématique centrale autour de l'Anthropocène, autour de l'écologie, etc.
Mais j'allais dire que ça va même plus loin dans le côté effrayant et inquiétant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte de diktat de la pensée de l'art contemporain, et malheureusement, on sait que l'art, c'est quand même dans la vie des gens, et donc ça peut aussi, inséminer aussi la pensée plus globale, et aussi, il y a ces critiques-là qui disent qu'effectivement, c'est inquiétant, cette moralisation de l'art contemporain, des œuvres qui doivent aujourd'hui être sur ces thématiques de moralisation et qui ne donnent plus place à une liberté artistique finalement.
C'est juste. Et c'est pour ça que dans toute cette tendance en effet extrêmement forte et peut-être un petit peu trop directement illustrative, c'est-à-dire attention, je suis en train de vous parler de ça, je suis en train de, par exemple, poser la question du rapport homme-nature ou poser la question de la confusion qu'il peut y avoir entre l'organique, le végétal, l'humain, l'animal, etc. Bon, voilà, ça c'est un petit peu des stéréotypes. Enfin, maintenant c'est devenu des stéréotypes.
Oui,
finalement.
Malheureusement même, parce que finalement.
Mais il y a d'autres artistes qui travaillent autrement.
Oui, bien sûr.
Et qui vont travailler sur le paysage romantique, par exemple, du 19e siècle, y voyant éventuellement un écho par rapport à notre période actuelle, et qui est un écho qui a une profondeur historique. Donc c'est toujours la même chose. Les artistes qui arrivent à décaler leur pensée et à ne pas être directement illustratifs de l'écume de nos préoccupations politiques, d'information, etc., sont pour moi peut-être parmi les plus intéressants. Après, je comprends qu'un artiste se sente concerné par une question qui est aussi fondamentale.
Ça, effectivement, on ne peut pas non plus dire à un artiste « ne fais pas ça ». Oui, ça, chacun... Je pense que l'important, c'est l'authenticité. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui vont le faire parce qu'ils ont vraiment envie de le faire et que c'est vraiment ça qui leur tient à cœur. Et puis, il y en a d'autres qui, pour finalement s'inscrire dans les voies un petit peu royales, peut-être du marché, vont choisir ces thématiques.
Parfois conscientes, un peu cyniques, ça existe. Parfois, je dirais que c'est aussi ce qu'on apprend dans l'école d'art, c'est-à-dire à être souple et être capable également de percevoir l'air du temps et à s'y inscrire. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, c'est ce que j'appelle le néo-académisme. De la même façon, Julie, vous avez peut-être remarqué que depuis 5 ans, même un peu plus, c'est bien de faire de la tapisserie, d'utiliser de la céramique, du verre, de revenir un peu à un art, entre guillemets, artisanal, l'art de la main, etc. Alors que il y a 10-15 ans, c'était scandaleux, bon, etc. Donc, ce qu'il faut vraiment, moi, ce que j'essaie de transmettre aux, entre guillemets, vieux, grands, on va dire grands étudiants que j'ai la plupart du temps avec moi, qui sont des gens qui donc n'ont pas fait d'études d'histoire de l'art, qui, comme vous l'avez noté, sont en revanche passionnés et ont envie de rentrer vraiment dans l'univers des artistes, c'est d'être tout à fait indépendant dans leur regard, dans leur choix, dans leur pensée, etc.
Oui, parce que ce qui est intéressant à souligner, c'est que vous êtes ce qu'on appelle art advisor aussi.
Oui.
C'est-à-dire que vous êtes en même temps pédagogue et vous transmettez votre passion en premier lieu. Mais ça sert, c'est un outil aussi qui vous sert à aller conseiller des collectionneurs qui seraient au début, finalement, de leur parcours de collectionneur.
Absolument, ouais, c'est un petit peu ça. C'est l'idée de pouvoir leur proposer un service un peu de A à Z, c'est-à-dire on peut démarrer, c'est déjà arrivé, à essayer de comprendre ce qui s'est passé à partir de Marcel Duchamp jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on peut petit à petit avancer, comprendre qui sont les galeries, comment ça fonctionne, le premier, le second marché.
Le premier, le second marché, juste pour préciser aux auditeurs qui ne sauraient pas, c'est quoi ?
Alors, c'est assez simple. Le premier marché, c'est un marché de la présentation directe des œuvres par une galerie, des œuvres qui viennent d'être réalisées par l'artiste. Et le second marché, c'est le marché de la revente. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont été achetées une première fois dans une exposition où elles ont été présentées par la galerie, ce qui représente l'artiste, elles peuvent être revendues. Généralement, ce sont des artistes soit assez âgés, historiques, soit même décédés, en fait, qui constituent le second marché. Donc, il y a des galeries qui vont fonctionner plutôt sur le second marché. Si vous vous intéressez à Wilfredo Lam, n'importe quoi, à Picasso, pour être plus simple, ou même à Pierre Soulages, par exemple, qui est pourtant un artiste encore vivant, vous avez de grandes chances d'être plutôt sur le second marché. Néanmoins, je reprends Soulages. Quand Soulages présente à la Galerie Alice Poli à Lausanne une pièce de 2019, une peinture de 2019, on est dans le premier marché. Ouais, je ne sais pas si je suis clair, mais ça se structure un peu comme ça. Les ventes aux enchères aussi, qui, donc là où on entend parler des records énormes, sont complètement des œuvres de second marché avec possibilité éventuelle de manipulation de la cote aussi, avec tout ce que ça suppose derrière de fonctionnement du business, etc. Et c'est tout ça aussi qui peut inquiéter des amateurs d'art et leur donner la sensation qu'ils maîtrisent rien et qu'ils sont complètement à côté de la plaque. Et en plus, si vous ajoutez ça à tous les freins qu'on peut avoir, faire un choix d'une œuvre a priori, c'est toujours un engagement personnel, presque, j'ai envie de dire, émotionnel et éthique et presque idéologique vis-à-vis de ses copains, des gens qu'on va, de sa famille, etc. Donc les freins, ils existent, ils sont très nombreux. Et moi, ce que j'essaie de faire, donc, c'est en effet à travers des cours, des visites et puis ensuite une prise en main plus directe, d'essayer de comprendre comment articuler chez un amateur d'art son goût personnel avec une certaine objectivation quand même de ses achats. Surtout, si, bon, voilà, de fait, qu'on le veuille ou pas, la question entre guillemets de l'investissement et du prix d'une œuvre dans 10-15 ans, elle compte toujours dans un achat. En tout cas, elle est toujours plus ou moins sous-jacente.
Oui, bien sûr.
Les gens se posent la question. Donc, on est un petit peu obligé de les rassurer, de leur expliquer dans quelle mesure cet artiste va pouvoir quand même être sous les radars des professionnels d'ici une dizaine d'années. Ça, on peut plus ou moins le percevoir déjà à partir d'éléments d'aujourd'hui, même chez des jeunes artistes. Et donc, moi, mon désir, en fait, c'est que les gens, non seulement ils participent chacun à titre individuel au financement du marché de l'art, qui se fait de l'art en général, y compris
des artistes. Oui, parce qu'il faut acheter les œuvres, il faut quand même...
Voilà,
pour faire vivre les artistes, c'est important, bien sûr.
Je ne sais pas quel est le pourcentage de financement, on va dire, par des fondations, par des commandes publiques, etc. Mais il doit être finalement relativement faible par rapport au financement qui est lié aux achats d'œuvres. Donc, acheter une œuvre, c'est aussi participer à la production et à la pérennité du travail d'un artiste. Et puis, autre chose qui me paraît encore plus important, c'est vivre avec l'œuvre, vivre au quotidien avec l'œuvre. Stéphane Coréard, qui s'occupe du salon galeriste qu'on a vu justement après la FIAC lors de cette longue journée que nous avions vendredi dernier.
Le salon qui a eu lieu en même temps, en fait.
Absolument, six foires off,
parce
si on avait six quand même.
Il y en a eu beaucoup cette
année.
C'est
quand même assez hallucinant.
Qui était au Carreau du Temple, non ?
Au Carreau du Temple, tout à fait. Voilà. Ces foires off qui profitent donc en fait de cette semaine de l'art contemporain à Paris et de la venue de curateurs, de professionnels et de collectionneurs du monde entier pour essayer de drainer en fait cette population-là vers une diversité plus grande de propositions artistiques. Et Stéphane a toujours, c'est quelqu'un qui a exercé de nombreux métiers justement dans l'art, le marché de l'art, etc.
Il a une galerie maintenant.
Il a d'ailleurs une galerie.
Qui est rue des Beaux-Arts,
absolument. Et il s'occupe donc de ce salon galeriste. Et j'aime bien la façon dont il explique que lui, vivre une œuvre d'art, c'est se lever le matin au petit déjeuner gai ou malheureux, engueuler ses enfants parce que voilà, ils ont renversé leur bol de céréales. Et l'œuvre d'art, elle est là, toujours présente. C'est l'idée du quotidien, en fait. Mmh. L'idée de l'intimité qu'on peut avoir avec l'œuvre, y compris de l'œuvre qui peut chaque jour apporter un point de vue différent.
Alors, on est loin des ports francs, là.
On est très très loin des ports, ça c'est clair. On
est qui est très une loin autre de réalité du marché fort. Quand même.
Ouais, absolument. Oui, je j'exerce
à Genève.
La majorité
de la transition
à Genève,
qui n'était peut-être pas.
Non, c'était une bonne transition. Alors c'est vrai que à Genève où j'exerce donc l'essentiel de mes activités, même si je viens régulièrement à Paris et pour voir des artistes et pour voir des collectionneurs et pour faire des.
Mais vous êtes français,
visites de foire,
je le rappelle.
Je suis français. Je fais une large partie de mon activité professionnelle ici à Paris. Genève a, une caractéristique particulière au niveau du marché de l'art. Elle a un Freeport, un port franc, qui est gigantesque, puisque on estime que
c'est le plus grand, non ?
Oui, je crois que c'est le plus grand du monde.
On estime que c'est
le plus ancien aussi, historiquement.
Oui, historiquement, oui.
On estime qu'il y a 5 stades de foot.
Ah oui.
de taille Et qu'on aurait jusqu'à 50 milliards d'œuvres d'art qui seraient stockées au port franc. Donc voilà, on est quand même
c'est
dans des chiffres qui sont assez gigantesques. Et là, on parle d'un art qui est un art 100%, allez, 95% financiarisé. C'est-à-dire que vous n'avez pas de TVA à payer, en fait. C'est comme si c'était une espèce de zone hors TVA, hors fiscalité. Et donc, c'est assez simple pour le possesseur du box 883 de vendre un Modigliani au possesseur du box 862.
Ah oui, d'accord.
Et c'est une transaction de box à box, évidemment totalement neutre du point de vue des administrations fiscales des différents propriétaires. Neutre aussi au niveau de l'administration fiscale suisse et évidemment totalement anonyme.
Ouais.
Et là, on est...
Donc, il se passe plein de choses qu'on ne voit absolument pas.
Alors, évidemment, je ne vais pas les décrire puisqu'on ne les voit pas.
Oui,
mais on sait qu'elles sont là. Ouais. Et on sait aussi que le port franc a une réputation un peu sulfureuse de ce point de vue-là. Mm. Il y a eu quand même des affaires dont la presse a parlé, des affaires que la presse a relatées. Hein. On sait que, par exemple, on va dire le responsable de la plus grande société de transport et d'exposition qui louait 75% des box des ports francs était aussi le conseiller d'un homme d'affaires russe qui s'appelle Dimitri Riboliviev, je ne dois pas prononcer très bien, mais tant pis, qui a quand même acheté pour 2 milliards d'œuvres d'art en 5 ans. Hein. C'est comme, voilà, qui s'est fait, il fait partie de ces fameux nouveaux collectionneurs qui voulaient se faire une collection universel avec tous les plus grands trophées. Alors évidemment, il y avait Warhol, il y avait Rothko, il y avait Modigliani, il y avait Picasso, il y avait voilà, c'est l'idée d'avoir vraiment tous les plus grands trophées. Et on sait que ils sont en procès ensemble, l'un contre l'autre, parce que le directeur donc de Natural Le Coultre, qui est cette société qui gère 75% des ports francs. Aurait non alors ça c'est un peu les comment dire les affaires du marché de l'art hein. C'est encore autre chose, c'est encore un autre volet de la complexité que l'amateur d'art trouve sur son chemin quand il veut lui-même entrer un petit peu dans la collection ou dans le ou tout simplement comprendre comment ça fonctionne. C'est que l'accord de départ, semble-t-il, était plutôt un accord de ce qu'on appelle de courtage. Ça veut dire que il touchait au départ pour le conseil en achat d'œuvres d'art 2,5%. Vous faites le compte, hein, 2,5% de 2 milliards, c'est
ouais,
déjà une petite
c'est
déjà
somme. Pas mal, ouais.
Mais semble-t-il, en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Il aurait acheté et revendu. Je ne sais pas, je ne me prononce pas parce que ce monsieur Riboliviev probablement a lui aussi, on va dire, une pensée relativement complexe sur ses affaires. Hein, donc on ne va pas se prononcer, c'est la justice qui le fera. Mais c'est pour vous dire que voilà, il y a énormément de choses qui se passent, qui sont au-dessus de nos têtes et dont on a à peine conscience. Et évidemment, ce ne sont pas des affaires qui sont susceptibles de rassurer le, entre guillemets, le Pékin moyen.
Oui, oui, bien sûr.
Sauf que ce Pékin moyen, il doit bien se dire qu'il est très loin de tout ça, de toute façon. C'est-à-dire que s'il va acheter dans les galeries supérieures de la FIAC, eh bien, il ne va pas du tout se retrouver dans ce type d'affaires. Jamais, jamais. Il va avoir, au fond, un rapport avec un galeriste, généralement honnête.
Tant mieux, heureusement, voilà,
honnête.
Oui, bien sûr.
Il va acheter une pièce à un prix suffisamment raisonnable parce que, pour qu'il ne soit pas dans une perte d'investissement majeure. Et puis, il va être heureux de la pièce qu'il aura achetée. Voilà, il faut en rester là, il faut en rester à cette question quand même du plaisir et de l'amour des œuvres qu'on achète.
Alors j'ai noté qu'il y avait, j'ai lu sur Art Price, qu'il y avait environ une estimation à 90 millions de art consumers, donc de consommateurs d'œuvres d'art dans le monde aujourd'hui, donc ce qui est quand même
considérable,
énorme.
Hein, considérable.
Bah oui. Voilà, donc heureusement, le marché de l'art, donc, grâce à ses acheteurs et ses collectionneurs, se porte bien. Et on estime aussi que 700 musées se créent aujourd'hui chaque année, donc l'art explose un petit peu.
Oui, tout à fait. Bah, à partir du moment...
Comment ça s'explique, ça? Est-ce qu'il y a une explication?
Oui. Bon, il y a une série d'explications,
rapide.
Je pense. Rapide. Il y a 25 ans, quand je suis rentré à Drouot, à l'hôtel Drouot, on vendait surtout du mobilier 18e. Un commissaire-priseur qui faisait une vente d'art contemporain, il y avait Cornet de Saint-Cyr, Binoche, enfin quelques noms qu'on connaît, étaient des doux rêveurs, en fait. Hein. Mmh. D'abord, on ne gagnait pas sa vie comme ça, et puis c'était du grand n'importe quoi, évidemment. Aujourd'hui, on est dans la situation inverse, c'est-à-dire que le mobilier 18e, voire même jusqu'à, on va dire, le tableau classique, ou même le tableau impressionniste, il y a un côté un peu, c'est fini, c'est ringard, etc., c'est truc à papa, etc. Donc, à mon avis, il y a deux raisons essentielles. D'abord, contemporain, ça veut dire de son temps, hein, cum temporare. Donc, c'est cette idée qu'on a un peu effleurée tout à l'heure, hein, d'espèce de rapidité perpétuelle et d'essayer de coller toujours à son époque. Tout va plus vite, tout le temps. Et donc, on doit être absolument de son temps. Hein, donc, c'est une espèce de diktat, hein, qui est assez évident, culturel. Et puis, la deuxième chose, c'est que vous avez une sorte d'effet de moutonnage, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est devenu la valeur sociale majeure, plus forte encore que celle du luxe, et s'y entremêlant d'une certaine façon.
Oui, c'est plutôt ça, voilà. C'est plutôt les sociétés une sorte de mariage luxe et art.
Absolument, puisqu'on voit bien d'ailleurs que les grandes marques de luxe utilisent de plus en plus les artistes et pour créer des objets de luxe, et aussi pour leur propre communication, dans leur propre collection, etc. Et c'est vrai que c'est devenu la valeur suprême, à tel point que même des entrepreneurs d'un certain niveau se disent au fond qu'à un moment donné, ils vont basculer en tant qu'artistes. Mmh. On en voit tous les jours, des collectionneurs, entrepreneurs qui deviennent artistes. Donc que fait la population globalement? Elle suit. Elle suit une espèce de mode, un peu de folie, pas forcément qui passe véritablement par les contenus et l'intérêt intrinsèque des œuvres d'art, qui ne va pas forcément très loin dans l'étude, la connaissance des artistes, mais plutôt dans celle, en effet, des différents lieux où il est bon d'être représenté et de se représenter soi-même.
Bon, on a en tout cas plaisir à vous écouter, Frédéric Alcaïm, parce que beaucoup d'informations et c'est vrai que vous avez une connaissance et un regard voilà, sur l'art contemporain qui est intéressant. Vous donnez donc vos cours dans des lieux, galeries, musées, fondations d'art aussi, je crois.
Oui, c'est ça, absolument, dans des lieux qui sont...
À chaque fois, voilà, dans chaque fois des lieux d'art. Hein,
absolument, c'est plus intéressant d'être à l'intérieur, dans les ventes aux enchères, dans le jus de l'art, dans son jus.
Ouais. Toutes les informations donc, sont à retrouver sur votre site internet artnow.ch.
Oui, absolument.
C'est ça, donc c'est votre plateforme où vous indiquez un peu le programme des cours, comment s'inscrire.
Absolument.
Et puis évidemment les événements, actualité un peu de l'art contemporain, quelle foire arrive, est intéressante d'aller visiter par exemple. Alors votre prochain rendez-vous c'est quoi par exemple là au mois de novembre?
Alors en novembre, j'ai énormément de différents cours. Sur différents artistes, qu'on va traiter en une heure, ça c'est à Genève plutôt, j'en ai à Lausanne aussi, au mois de novembre, on va faire une table ronde aussi sur l'anthropocène justement,
oui,
l'art dans l'anthropocène, voilà.
Oui, l'anthropocène qui est ce mot à la mode, qui signifie effectivement l'ère où l'homme a commencé à dégrader, ou l'impact en fait de l'homme.
Il faut imaginer les archéologues dans Milan qui vont essayer d'excaver un peu nos couches géologiques et qui vont dire « Ah, ça, c'est la couche de l'Anthropocène », c'est-à-dire le moment où l'homme a influencé très fortement l'évolution de la nature. Donc ça, c'est au mois de novembre. Et puis après, en janvier, j'aurai... y a une foire qui s'appelle Art Genève qui va être commentée aussi, sur une dizaine d'heures. Je vais revenir à Paris au printemps avec la foire Drawingna,
sur le
à laquelle je suis très, très attaché.
Oui.
Parce que ça, c'est une foire merveilleuse pour les gens qui sont ce qu'on appelle des primo-collectionneurs, des gens qui ont envie de démarrer une collection, qui peuvent à la fois s'acheter des artistes historiques pour des prix parfois qui sont en dessous de 10 000 euros. Enfin, on ne parle pas non plus, alors c'est évidemment des prix déjà chers, mais on ne parle pas de 100 000 ou de 1 million.
Oui, ça reste quand même dans des fourchettes plus raisonnables que ce qu'on peut voir.
Hein. Voilà. Et des artistes jeunes, contemporains, et il y en a quantité qui sont vraiment dans une créativité assez débordante dans le domaine du dessin contemporain, qui relie en plus à la fois l'art de la pensée, l'art de la main, une certaine sensibilité aussi. Enfin, c'est quand même un merveilleux médium. Et vous avez des prix réellement qui commencent à 1000, 1500 euros. Et on peut vraiment se faire plaisir. Donc, c'est formidable.
Donc, un bon conseil, un enthousiasme pour cette foire Drawing Now, donc au printemps prochain. Merci beaucoup, Frédéric Elgame.
Merci,
on arrive à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte au micro.
Oui, ce qui me paraît juste pour conclure notre entretien, c'est que je pense qu'il ne faut pas imaginer l'art contemporain en particulier comme quelque chose qui serait simplement un savoir ou quelque chose qui serait une posture sociale dans laquelle s'inscrire. Mais pour moi, le mot qui me paraît important, c'est l'expérience. L'art, c'est vraiment une expérience de vie. Et très sincèrement, ça peut, j'en ai vu souvent, la manifestation, ça peut changer votre vie, ça peut vous faire du bien. Quand on est déprimé, on peut aller dans un musée et se sentir mieux après. Et c'est vraiment, en regardant les enfants, la façon dont ils se baladent dans une installation, je pense qu'ils ont la bonne façon de faire. Ils ne se posent pas 36 000 questions, ils perçoivent, ils jouent, ils interagissent. Et au fond, c'est ça. C'est ce qui est de merveilleux dans l'art contemporain, c'est qu'on n'est plus dans la béatitude, l'admiration, mais dans l'expérience et la co-expérience où on peut soi-même s'investir personnellement pour terminer en quelque sorte, pour être la personne qui va être le co-auteur en quelque sorte de l'art contemporain.
Et oui, évidemment, donc effectivement, c'est une très belle conclusion, puisque l'art rend heureux aussi, et le superflu est bien sûr nécessaire, comme disait Voltaire. Donc oui, aller voir des expositions, aller découvrir des artistes, parce que c'est quand même merveilleux d'avoir de l'art dans sa vie, que ce soit chez soi ou même au musée quand on ne peut pas s'offrir une œuvre d'art. Merci beaucoup Frédéric Elgame. Je rappelle que votre site internet, donc, c'est artnao.ch. Merci à vous et à très bientôt, j'espère.
Merci, à bientôt.